Monique Olivier a déclaré que Michel Fourniret avait bien enlevé Estelle Mouzin le 9 janvier 2003, après l'avoir violé et étranglé. Michel Fourniret est donc bien l'auteur du meurtre et de l'enlèvement d'Estelle Mouzin.
Bonsoir, ravi de vous retrouver sur RTL pour cette nouvelle saison de l'heure du crime. Chaque soir de 20h à 21h, très heureux, vraiment très heureux de partager avec vous ce rendez-vous. Les plus assidus d'entre vous ont sans doute noté que le générique, le fameux générique de l'heure du crime a changé, mais l'heure du crime, elle, ne change pas. Avec vous, je vais continuer à explorer ces dossiers criminels, résolus ou non, mais qui continuent des années après à nous intriguer et à susciter nos interrogations. Comme ce soir, 17 ans de mystère autour de la disparition d'Estelle Mouzin, 9 ans, le 9 janvier 2003, à Guermantes, en Seine-et-Marne, et l'ombre, depuis si longtemps, du tueur en série Michel Fourniret. Affaire qui hante la chronique criminelle, mais dont le voile se déchire. Vendredi, Monique Olivier, celle qui fut l'épouse de Fourniret, a expliqué, sur un ton calme, face à la juge d'instruction, comment son ex-mari avait abrégé la vie d'Estelle Mouzin, l'avait séquestrée, violée, étranglée dans une maison de Ville-sur-Lume, dans le massif des Ardennes. Ça n'est pas la première fois que Monique Olivier désigne Michel Fourniret comme l'assassin d'Estelle. Au mois de novembre, elle avait déjà raconté avec ses mots, ses images, ses bribes de souvenirs, comment Fourniret était parti à la chasse le jour de l'enlèvement d'Estelle. La chasse aux petites vierges, comme il lui avait précisé. Ce soir-là, Fourniret serait rentré chez lui très tard et couvert de boue. Aujourd'hui, Monique Olivier précise davantage encore ce terrifiant scénario qui se dessinait. La mort, loin de chez elle, loin de sa famille, dans le silence et une solitude glacée, d'Estelle Mouzin, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Michel Fourniret, qui va être interrogé demain et après-demain, sera-t-il cette fois en mesure de donner sa vérité? Arrivons-nous au terme du dossier Estelle Mouzin? Nous en parlerons jusqu'à 21h. C'était vendredi, en milieu de matinée, au palais de justice de Paris. Dans le cabinet de la juge d'instruction Sabine Kerris, Monique Olivier, 71 ans, confirme les propos qu'elle a commencé à distiller depuis le début de la semaine. L'ancienne épouse de Michel Fourniret, une ombre grise comme elle apparaît sur les dernières photos qu'on collait d'elle, est en confiance avec cette magistrate. Elle l'a déjà interrogée durant des dizaines d'heures. Il y a 9 mois, Monique Olivier avait désigné Michel Fourniret comme l'assassin d'Estelle Mouzin. Cette fois, elle va plus loin. Elle se libère du poids des souvenirs qu'elle dissimulait. Livre les séquences du crime d'Estelle Mouzin. Enlèvement, séquestration, viol, puis la mort par étranglement. Vendredi, Richard Delgenès, avocat de Monique Olivier, raconte à Thomas Proutot de RTL, lors d'une interruption d'audience, l'aveu spectaculaire de sa cliente.
Monique Olivier a déclaré que Michel Fourniret avait bien enlevé Estelle Mouzin le 9 janvier 2003, après l'avoir violée et étranglée. Michel Fourniret est donc bien l'auteur du meurtre et de l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Monique Olivier passe nécessairement du fait de ses révélations et de ce qu'elle a déclaré du statut de témoin assisté à celui de mise en examen, puisque si elle a des informations et ce qu'elle a déclaré fait que forcément les investigations vont se mener sur la durée de la séquestration d'Estelle Mouzin, nécessairement sur les conditions de sa mort, sur l'endroit où se trouve le corps. On n'a pas à être soulagé de révéler ce genre de choses. Et puis, peu importe les états d'âme de Monique Olivier, la seule chose qui compte, c'est qu'elle l'ait fait et qu'aujourd'hui, au moins, la famille puisse savoir ce qui s'est passé pour Estelle Mouzin, parce que je pense que l'attente et pas savoir, c'est interminable et on pourra toujours reprocher à ceux qui savent de ne pas l'avoir dit plus tôt.
Monique Olivier, désormais mise en examen pour complicité d'enlèvement et séquestration suivie de la mort. Cette femme, qui pendant des années était le maillon faible du couple diabolique, le mot n'est pas trop fort, qu'elle formait avec Fourniret, complice, rabatteuse, quasiment soumise à toutes les perversions de son mari assassin, cette femme est désormais le maillon fort de l'enquête Estelle Mouzin. La femme qui était la gardienne de tous les secrets de Michel Fourniret est devenue le plus précieux des témoins. Bonsoir, maître Didier Seban.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocat historique, dirons-nous, du père d'Estelle Mouzin. Vous défendez ses intérêts avec votre consoeur, maître Corinne Herman. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RTL. Est-ce que vous vous attendiez, maître, à cette nouvelle avancée sur le chemin de la vérité, cette nouvelle avancée de Monique Olivier ?
Oui, parce que enfin les services d'enquête ont travaillé. Oui, parce qu'enfin un juge d'instruction s'est plongé dans ce dossier et a mis tous les moyens en œuvre. Oui, parce qu'enfin on nous a écoutés, puisque nous disons depuis le départ que la piste Michel Fourniret doit être sérieusement investiguée et que depuis le départ on nous dit que au fond ça n'est pas sérieux, que même s'il s'est dénoncé lui-même tout au début, eh bien tout ça est de la perversion. Oui, parce que ce travail-là aboutit à ce que une relation de confiance se soit nouée entre la juge et Monique Olivier. Monique Olivier qui avait demandé à être interrogée par cette juge, qui avait dit « je ne parlerai que devant Madame Kéris ». Et donc, nous pensions que des avancées importantes pouvaient être faites. Vous savez, ça nous fait penser aux aveux de Monique Olivier devant les policiers belges il y a bientôt 15 ans, qui avait avoué au bout d'un an d'investigation, d'interrogatoire, de mise en confiance, qui avait avoué une dizaine de crimes. Michel Fourniret ensuite avait voulu reprendre la main, il avait donné des détails, les lieux où étaient les corps. Ce qu'on peut espérer, c'est que dans ce jeu pervers entre ce couple infernal, comme vous l'avez dit, eh bien, nous finirons par savoir la vérité et surtout par savoir où est Estelle.
Bien sûr, savoir où est Estelle avec l'entêtement qui vous caractérise ainsi que celui du père d'Estelle. Pourquoi, maître, encore une petite question, pourquoi depuis plusieurs mois, Monique Olivier accepte de parler beaucoup plus facilement parce qu'elle n'a plus peur de Fourniret ?
Je ne crois pas. Je crois que d'une certaine manière, peut-être que le rôle de son avocat a été important. Elle est revenue, je l'ai vu lors d'une confrontation avec Michel Fourniret, elle est revenue dans le règne des humains, elle n'est plus dans le jeu pervers qu'elle avait avec Fourniret. Peut-être que la longue détention qu'elle a connue l'amène à comprendre le mal qu'ils ont fait tous les deux. Je veux le croire. J'ai en souvenir cette reconstitution récente dans une autre affaire Fourniret où elle lui dit, écoute, donne le corps aux familles, dis où il se trouve, parce que quelque part les familles attendent depuis trop longtemps. Je veux croire que une parcelle d'humanité est revenue chez Monique Olivier, qu'elle parle pour cela.
Restez avec nous, maître, dans l'heure du crime, puisque nous parlerons tout à l'heure beaucoup plus directement du cas Michel Fourniret. Bonsoir Michel Fine.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes notre deuxième invité dans l'heure du crime ce soir. Vous avez réalisé un documentaire événement diffusé sur W9 l'an dernier, Fourniret, la fin du mystère Estelle Mouzin, avec un point d'interrogation.
À l'époque.
À l'époque, voilà. Monique Olivier, il faut le préciser, a longtemps couvert Michel Fourniret. Elle a reconnu devant la juge Kéris avoir consolidé son alibi, ce fameux coup de fil qu'aurait passé le 9 janvier à 20h Fourniret depuis leur domicile de Sarcustine à son fils. Et vous aviez d'ailleurs obtenu un témoignage exceptionnel à l'époque, celui de la co-détenue de Michel Olivier, qui a fait tomber cet alibi. Et ça a été un petit peu le départ des révélations aussi, hein, en cascade.
Oui, Milica Petrovic, qui est une femme étonnante. Étonnante. Milica Petrovic, qui est une co-détenue de Monique Olivier, qui passe à l'époque 13 ans en prison. C'est une femme escroc. Quand on lui demande quelle est sa profession, elle dit escroc. Elle est de nationalité serbe, c'est quelqu'un qui a connu Mérine, qui a été formée par lui, qui est la première femme fichée au grand banditisme, donc c'est pas n'importe qui. C'est la caïd dans la prison, c'est elle qui donne à manger, etc. Et un jour, elle voit une interview d'Éric Mouzin, elle se dit, qui parle de la piste Fourniret, elle se dit, mais Fourniret, Monique Olivier, elle est là. Cette pauvre petite Estelle, elle, c'est les enfants, quoi. Et donc, elle se dit, je dois faire parler Monique Olivier. Et elle se donne elle-même, elle se met elle-même la pression et elle va arriver à trouver un moyen de se rapprocher d'elle, de la mettre en confiance. Elle a mis 11 mois. à la faire parler.
À la faire parler.
11 mois.
Et Monique Olivier va parler, effectivement.
Et elle me dit, je suis allée jusqu'à lui couper les ongles, alors que j'avais envie de lui couper les doigts, quoi. Et elle a fait parler Monique Olivier. Et Monique Olivier lui a raconté pas mal de choses, dont la façon dont elle a couvert Fourniret le jour où il est parti enlever Estelle Mouzin, en lui servant d'un alibi, en passant un coup de fil et en faisant penser, laissant penser à tout le monde que c'était Fourniret qui avait passé le coup de fil de Belgique. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans le travail des enquêteurs, il n'y a pas que le témoignage de Militza. Elle n'a pas parlé qu'à Militza, Monique Olivier. Elle a parlé à au moins 4 autres détenus, à qui elle a dit la même chose.
C'est ça, une envie de parler ainsi. Cela fait plusieurs mois que Monique Olivier livre sa vérité ou ses vérités, des faits suffisamment étayés pour que la justice les retienne et les exploite. Le fait est que depuis cette dernière audition, le film de l'enlèvement et celui de la mort d'Estelle Mouzin se précise à travers les déclarations de Monique Olivier, mais également, on va le voir, d'autres indices importants ignorés jusqu'ici et qui pourraient mener un jour jusqu'au corps de la petite fille. C'est donc aujourd'hui une certitude. Ce 9 janvier 2003, c'est Michel Fourniret qui se trouve seul, tapis dans sa camionnette blanche, dans le bourg de Guermantes, en Seine-et-Marne, à 300 km de sa maison de Sarcustine, dans les Ardennes, où ce soir-là est restée son épouse, Monique Olivier. Elle sait que son mari est parti à la chasse dans un village qu'il a déjà reconnu à plusieurs reprises, où il a même tenté, sans succès, d'enlever une première petite fille. J'ai repéré la vie, les deux petites filles, au coin de la boulangerie. Elles vont se séparer. Il y en aura bien une des deux. Je préfère l'une que l'autre parce que la rue est assez sombre et c'est plus facile pour moi, a-t-il raconté à son épouse. Il ajoutera, j'ai repéré un beau petit lot. Peu après 18h, à l'angle de la fameuse boulangerie, Fourniret est là. Il fait déjà nuit, on est en plein hiver. Il voit passer la petite fille qui rentre de l'école et rejoint à pied le domicile de sa mère, Suzanne, alors en instance de divorce avec son mari, Éric Mouzin. Il l'aborde, un abordage idoine, déclara-t-il à la juge dans ses souvenirs embrumés ou à géométrie variable. Il la pousse dans la camionnette. Plus personne ne reverra Estelle Mouzin. Disparue, volatilisée, évaporée à la faveur de l'obscurité, la famille de la petite fille est perdue, bouleversée, incrédule. Sur RTL, le témoignage de Lucie, la grande sœur d'Estelle.
Au début, j'ai aussi dit, ça se trouve, elle est tombée quelque part et on va la retrouver. Quand ça se trouve, ouais, elle est tombée sur un truc de glace, elle a peut-être cassé une jambe, ça se trouve, elle est à l'hôpital, machin, je sais pas, moi. Mais bon, bah là, moi, je pense que, ouais, là, ça se trouve, quelqu'un l'a... Là, on l'a pris dans une voiture, quoi, mais elle serait pas montée avec n'importe qui, quoi.
Michel Fourniret prend la route. Un trajet qu'aujourd'hui, lui seul, est en mesure de raconter. Monique Olivier, elle, se souvient avoir vu rentrer son mari vers 4 heures du matin, son pantalon couvert de boue. Heureux et satisfait de son long voyage, des heures qu'il venait de passer. Il lui aurait confié avoir enlevé et violé la petite fille de Guermantes. Il l'aurait emmenée dans une petite maison appartenant à sa sœur, à 45 minutes de chez lui, à Ville-sur-Lume. Impossible de savoir si à ce moment-là, Estelle est déjà morte ou toujours séquestrée. « Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute », dira, énigmatique, Fourniret lors d'une audition consacrée à Estelle Mouzin. Les fouilles au numéro 15 de la rue des Jardins, l'adresse de cette maison où la petite fille aurait donc vécu ses dernières heures, ces fouilles n'ont pour le moment rien donné. Michel Fine, je reviens vers vous, invité de l'heure du crime ce soir. Vous connaissez d'ailleurs bien cette maison de Ville-sur-Lume et vous allez nous en parler. Ce cheminement de Michel Fourniret à Guermantes, ses repérages, l'enlèvement, tous ces détails donnés en grande partie par Monique Olivier, c'est vraiment la signature criminelle de Michel Fourniret, tout ça ?
La signature criminelle de Michel Fourniret, c'est effectivement de faire des repérages, d'abord aux abords des écoles. Michel Fourniret avait l'habitude de dire que c'est très facile d'enlever un enfant. Il suffit de se mettre tous les jours au même endroit à la sortie de l'école et on est sûr qu'il est là et on est sûr qu'il n'échappera
pas. Qu'on ne le rattrapera pas.
Même chose avec les boulangeries. Il avait repéré les boulangeries. Il sait que c'est un endroit par où passent les enfants. Il a repéré l'une de ses victimes en 88, Marie-Angèle Domès, devant la boulangerie, sur la place en face de chez lui. Donc voilà, ça c'est sa technique. Et sa deuxième technique, c'est de faire des repérages souvent précis. Et ce qu'il aime, Fourniret, c'est terrible à dire, mais c'est la chasse.
C'est un chasseur. D'ailleurs, c'est les mots qu'il emploie. Aller à la chasse aux vierges. Alors, vous connaissez bien cette maison de Ville-sur-Lume. Ça, c'est ça, un petit peu une de ses bases arrières.
Arrière qui, à côté de laquelle les enquêteurs, j'ai l'impression, sont un petit peu passés, pas tout à
alors
fait.
Alors dites-nous.
Un petit peu passés au départ. C'est-à-dire que quand Michel Fourniret est arrêté en juin 2003, tous ses domiciles sont perquisitionnés. En Belgique, le domicile de Sarcustine est perquisitionné de fond en comble. On va creuser, on va fouiller le sol, le jardin, on retourne tout. On trouve tout ce qu'on peut trouver. En France, il y a le château du Sautou, il y a une petite masure sinistre à Foin dans les Ardennes, et il y a cette maison de Ville-sur-Lume. On va faire des perquisitions dans chaque maison. On va prendre un certain nombre de choses, mais on ne va pas retourner le terrain. Il y aura des fouilles au Sautou, on trouvera deux corps, mais on ne va pas retourner l'ensemble du terrain, ça semble compliqué. Mais par exemple, à Ville-sur-Lume, les enquêteurs ont laissé un certain nombre de choses, et un certain nombre de choses conséquentes, puisque le propriétaire qui a racheté la maison à Michel Fourniret, un an après qu'il a été arrêté, me dit qu'il a jeté des choses et des choses à la benne. Il y avait une benne entière.
Incroyable.
Peut-être qu'on se dit aujourd'hui qu'on aurait pu trouver des choses. Bon, ceci dit, la perquisition a été faite, on a saisi un certain nombre de choses, dont un matelas qui, 13 ans après, a parlé
et, bien sûr,
a révélé l'ADN d'Estelle.
On va revenir évidemment sur ce moment très important. On a toujours en ligne Maître Didier Seban, l'avocat du père de la petite qui a été tué par Michel Fourniret, de toute évidence. Maître Didier Seban, Michel Fourniret va être entendu demain et après-demain par la juge. Peut-il aller plus loin que Monique Olivier et afin raconter les derniers moments d'Estelle, l'endroit où elle se trouve, ou bien c'est un vœu pieux?
Éric Mouzin a pour habitude de dire qu'il n'attend rien de Michel Fourniret, parce qu'il ne veut pas rentrer dans le jeu pervers avec celui qui a causé son malheur. J'aurais tendance à dire que nous n'attendons rien, mais nous attendons toute la justice et de son travail. Et la justice... elle s'est mise au travail enfin avec la juge Kéris et les enquêteurs de la SR de Bourgogne, la section de recherche. Donc on a des éléments à lui opposer, on en avait depuis très longtemps, tout porté de regard sur Michel Fourniret dans cette affaire. Et donc comme on a des éléments à lui opposer, qui voudra peut-être prendre la main sur Monique Olivier, c'est là qu'on peut avoir un espoir. C'est comme ça que les Belges l'avaient fait parler... Monique Olivier avait parlé d'abord et ensuite Michel Fourniret avait donné les lieux où se trouvaient les corps dans l'affaire des Ardennes, dans l'affaire qui a été jugée à Charleville-Mézières. Donc oui, on peut espérer que dans ce jeu de celui qui a la maîtrise du calendrier et des aveux, Michel Fourniret dise quelque chose parce qu'il y a eu tout un travail énorme. Je voulais vous dire aussi une petite chose, c'est que ça n'est pas pour moi le dernier secret de Michel Fourniret. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires
bien
criminelles,
sûr.
De meurtres, ouais. qui n'ont pas été élucidées parce qu'on n'a plus travaillé sur ce tueur en série depuis son procès à Charleville-Mézières. Qu'on travaille enfin, et peut-être que beaucoup d'autres familles attendent qu'on élucide leurs affaires pour que du travail qui est en train de mener Madame Kéris aujourd'hui.
Vous avez évoqué un petit peu Michel Fourniret comme le maître des horloges. C'est finalement la recette pour arriver à le faire parler, à ce qu'il puisse délier sa langue.
Écoutez, oui, je pense que le fait de lui montrer qu'on a quelque part des atouts dans son jeu, parce que c'est un pervers, un joueur d'échecs, qu'on a des atouts dans son jeu, qu'on en sait plus que lui, qu'on en sait beaucoup plus qu'il ne pense sur lui et qu'on a travaillé, c'est là qu'on obtient des aveux et des avancées. Et je crois que le fait que Monique Olivier ait parlé dans le détail peut l'amener à dire des choses pour reprendre la main d'une certaine manière, comme un joueur de la mort qu'il est, comme un pervers terrible. Je crois qu'on peut obtenir des choses, et en tout cas je suis convaincu que les planètes sont aujourd'hui bien alignées, parce qu'on a aujourd'hui une envie, une vraie envie de trouver et de donner des réponses aux familles.
Michel Fourniret, unique suspect dans le dossier de la mort d'Estelle Mouzin, suspect numéro 1, même s'il aura fallu attendre 17 ans, pour qu'il soit quasiment confondu, alors que la justice avait sous le nez des indices, des preuves, une trace ADN que personne n'avait vue ou qu'on avait tout simplement négligée.
L'heure du crime sur RTL.
Et ce soir, dans l'heure du crime, nous revenons sur Michel Fourniret, désigné comme l'assassin de la petite Estelle Mouzin. Dans ce dossier, tout converge désormais vers ce violeur et tueur en série. Dans les heures, les jours et les semaines qui suivent la disparition de la petite Estelle Mouzin, 350 maisons sont perquisitionnées, 170 policiers mobilisés, 300 gendarmes seront même déployés pour bloquer les accès à Guermantes et encadrer des battues. Aucune trace d'Estelle, dont la France entière découvre alors le visage juvénile sur une photo affichée partout. Une enfant de 9 ans, aux cheveux bruns et portant un pullover rouge. Visage emblématique qui va devenir le symbole des rapts d'enfants, puis celui des affaires criminelles non élucidées. À l'époque, la police judiciaire fait évidemment le tour des suspects potentiels, notamment les criminels pédophiles. Mais rien ne se dessine, aucune piste solide n'apparaît. 5 mois après le rapt, le nom de Michel Fourniret a pourtant surgi une première fois dans le radar des enquêteurs. Les policiers s'intéressent à ce Français qui a déjà un lourd passé criminel et qui vient d'être arrêté ce 26 juin 2003 à Ciné, en Belgique. Il venait juste d'enlever une fille de 13 ans, Marie Ascension. Elle a eu beaucoup plus de chance que les autres victimes puisqu'elle a réussi à prendre la fuite, à donner l'alerte et à décrire précisément l'homme qui voulait la faire monter à bord de sa camionnette blanche. Même si l'on sait alors que Fourniret semble être un itinérant, un routard du crime, c'est le surnom donné à un autre tueur, Francis Holm. Les enquêteurs ne sont pas convaincus de son implication. Trajet trop long, trop compliqué pour se rendre des Ardennes jusqu'en Seine-et-Marne. La neige tombée en abondance qui rend les routes mauvaises. Et puis bien sûr, le fameux alibi. Le coup de fil qu'il passe à son fils depuis son domicile de Sarcustine à l'heure de l'enlèvement. Fourniret n'a jamais passé ce coup de fil personnellement. Monique Olivier finira par avouer ce stratagème pour faire croire que son mari était chez lui alors qu'il se trouvait à Guermantes. Michel Fourniret est un suspect séduisant, mais pour l'heure, il est hors de portée des enquêteurs qui vont donc laisser filer cette piste. Maître Didier Seban, vous êtes en ligne, toujours dans l'heure du crime avec nous. Pourquoi, maître, n'a-t-on pas davantage creusé la piste Fourniret ? Et puis je vous pose la question encore plus clairement, même si c'est un peu brutal. Les enquêteurs ont-ils raté Fourniret ?
Ah, ils l'ont carrément raté. Quand les Belges remettent Michel Fourniret à la France, ils disent aux enquêteurs français, c'est lui dans Estelle Mouzin. Quand Michel Fourniret écrit au président de la chambre d'accusation pour dire « Je veux être jugé dans l'affaire Estelle Mouzin, dans l'affaire Paris, dans l'affaire Domèche, et dans 3 crimes qu'il va ensuite reconnaître où il faudra le 10 ans, 15 ans pour qu'enfin ces affaires soient instruites sérieusement par la juge Kéris. Mais non, on nous dit « c'est un pervers », on nous dit « ah, tout ça s'est passé en Seine-et-Marne, c'est bien loin de ses bases dans les Ardennes ». On nous dit qu'il y a cet alibi qui ne tient pas, puisque le fils de Michel Fourniret et sa belle-fille diront n'avoir jamais reçu cet appel. On nous oppose, même les enquêteurs diront à la radio, qu'à 99,99%, ça n'est pas Michel Fourniret. Mmh. Au fond, on ne veut pas de cette piste parce que elle vient par d'autres enquêteurs, parce qu'elle vient par les avocats du père. Nous avons fait 3 tonnes de demandes à demander au juge d'aller vérifier les traces ADN. Il y a 20 traces ADN dans la camionnette de Michel Fourniret. Elles ne sont vérifiées que maintenant pour trouver des victimes. on écartera cette piste parce qu'on ne sait pas en France enquêter sur les tueurs en série. On prend fait par fait, on ouvre une instruction à Versailles pour Farida Amish, une jeune femme qui l'a tuée. On ouvre une instruction à Meaux pour Estelle Mouzin. On ouvre une instruction à Paris pour Demesh et Paris. Au fond, on ne coordonne pas les efforts sur les tueurs en série. On ne met pas en perspective leur parcours criminel. Elisabeth Brichet, qui l'a enlevée au sortir d'une boulangerie en Belgique, c'est la copie conforme d'Estelle Mouzin. Il attendra 3 heures sa sortie de la boulangerie et on ne met pas en rapport cela. On ne connaît pas son parcours. On ne sait pas que le premier endroit où il a été lorsqu'il est sorti de prison, c'est en Seine-et-Marne, à 500 mètres de Guermantes. On ne sait pas que sa fille travaillait à Guermantes, travaillait à Bussy-Saint-Georges. Enfin, on ne met pas en perspective le parcours criminel d'un tueur comme Michel Fourniret. On part simplement des faits, on va enquêter sur la proximité, mais on ne sait pas imaginer que celui-là peut être le tueur, alors qu'il n'y a pas tant, et heureusement, je le dis aux auditeurs d'RTL, il n'y a pas tant de tueurs d'enfants, il y en a malheureusement quelques-uns, et ces quelques-uns, on ne sait pas faire leur parcours criminel. C'est ce qui nous manque terriblement aujourd'hui dans notre pays et que nous espérons voir réformer.
Michel Fourniret, insaisissable, même si aujourd'hui un détail stupéfiant a surgi dans le dossier. C'est presque incroyable. Mais il aura fallu attendre 17 ans pour enfin connaître le résultat d'un prélèvement ADN effectué à l'époque. Un prélèvement sur un matelas saisi dans la fameuse maison de la rue des Jardins à Ville-sur-Lume, adresse qui a de toute évidence servi de lieu de détention et de cave aux sévices. À Estelle Mouzin, un autre ADN retrouvé sur ce matelas appartient lui à une autre victime de Fourniret, Céline Saison, tuée elle 3 ans plus tôt en 2000. Dès 2003, même si les techniques de police scientifique n'étaient peut-être pas aussi avancées qu'aujourd'hui, on aurait pu donc savoir que Estelle avait séjourné dans l'une des caches de Fourniret. Maître Seban, je reviens à nouveau vers vous. Votre consoeur Corinne Herman nous disait vendredi être très en colère par cette découverte tardive. Vous partagez ce sentiment ?
Oui, puisqu'on avait demandé que tout ça soit examiné en son temps, puisqu'on avait demandé que tout cela soit vérifié et qu'il a fallu que la juge charge d'une mission très générale, le professeur d'Outremeuse, pour que ces indications soient données. Donc on aurait pu donner la réponse au père, à la famille qui l'attend depuis si longtemps. On aurait pu la donner bien plus tôt et permettre que cette affaire soit plus vite clôturée, que le doute, ce doute qui corrode ce combat qu'a dû mener toutes ces années ce père, ben, la réponse lui soit donnée ainsi qu'à la famille d'Estelle.
Michel Fine, je me tourne vers vous. Oublier une trace ADN dans une telle importance, c'est incroyable et c'est évidemment préjudiciable. Est-ce que l'affaire Fourniret-Estelle Mouzin aurait pu être résolue plus tôt ?
Oui, si on avait fait, si on avait utilisé les techniques, qui est pas une technique forcément révolutionnaire, hein, la technique du laboratoire de Bordeaux du professeur Doutomé-Puich, c'est la technique du quadrillage, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre au petit bonheur, faire des prélèvements sur un matelas, à droite, à gauche, faire 2-3 prélèvements. Lui, il prend les vêtements ou les matelas, il les quadrisse et il fait des petits carrés de 3 cm de côté. Et dans chaque petit carré, il fait un prélèvement. Donc il quadrille l'endroit, l'envers et chaque côté. Donc il ne passe à côté de rien. C'est grâce à cette technique qu'il a trouvé l'ADN de Pascal Jardin dans l'affaire du meurtre de Christelle Blétry. Et c'est grâce à cette technique qu'on trouvera peut-être d'autres ADN là où ils n'avaient pas été trouvés. Bon, ceci dit, ce sont des prélèvements qui coûtent très cher, ça coûte des centaines de milliers d'euros au final, mais c'est le prix de la vérité.
Mais vous êtes d'accord, c'est tardif.
C'est tardif, peut-être qu'on aurait pu faire des prélèvements plus systématiques avant.
Monique Olivier a donc percé une première brèche dans le mur de la vérité dans le dossier Estelle Mouzin. La juge Sabine Kerris, à force d'acharnement, de persuasion, n'est plus très loin de la résolution de cette énigme criminelle. Mais est-ce que le principal intéressé, le tueur lui-même, Michel Fourniret, est décidé à livrer sa vérité ? Une nouvelle fois, la juge Sabine Kerris va donc entendre Michel Fourniret. Demain, mardi et puis mercredi. Le plus souvent, l'homme témoigne de manière fragmentaire. On s'y perd un peu d'ailleurs avec Fourniret. Il faut savoir le décrypter. le décoder. On ne sait d'ailleurs pas si c'est lui qui organise sciemment ce jeu du chat et de la souris, s'il s'en délecte ou bien si sa mémoire, qu'on dit défaillante, lui joue des tours. Au mois de mars, quand la magistrate lui met la pression sur l'endroit possible où il aurait pu faire disparaître le corps d'Estelle Mouzin, le tueur ne peut que livrer son embarras. Il explique « Vous avez un corps sur les bras et vous devez vous en défaire sans être vu et vite vous en débarrasser. Vous ne savez pas quoi faire et vous faites n'importe quoi. » Au pire, Fourniret garde le silence. Au mieux, il entr'ouvre la porte et donne des gages de bonne volonté. Comme cette déclaration faite à la juge est citée par le journal Le Parisien. « S'il y a le moindre détail de petit relief qui peut me mettre sur la piste, je cours tout de suite. » Fourniret a également fait cet aveu lors d'une audition sur Estelle. « Les circonstances, le déroulement, c'est dans les oubliettes. » Avec Fourniret, la juge Kéris passe donc beaucoup de temps à raviver sa mémoire. Elle ne compte pas les heures ni les silences. Elle égrène sans aucune tension ni hausse de ton les indices qui pourraient provoquer chez le prévenu ses flashs, ses fulgurances qu'il exprime sans jamais beaucoup de précision. Le but est bel et bien de provoquer une étincelle. C'est pour cela que les enquêteurs n'excluent pas un déplacement de justice de Michel Fourniret jusqu'à Guermantes, dans cette rue où il avait aperçu la silhouette d'Estelle, là où il avait décidé que cette petite fille rentrant chez elle serait une proie idéale. Fourniret pourrait également être conduit à nouveau jusqu'à la maison du crime, à Ville-sur-Lume, là aussi avec l'espoir qu'un éclair surgisse dans la nuit brumeuse dans laquelle il semble être enfermé. Michel Fine, Michel Fourniret, on l'a dit, va de nouveau être entendu, demain et après-demain. Alors qu'est-ce qu'il a raconté jusque-là sur le cas Estelle Mouzin ? Soyons précis.
Oh, il a raconté pas mal de choses. En fait, Michel Fourniret, comme dit souvent Didier Seban, c'est quelqu'un qui laisse des petits cailloux. Il laisse des indices aux enquêteurs.
Le petit poussé du crime.
C'est le petit poussé du crime, oui. Il est très intelligent, c'est l'intelligence au service du crime, et donc il laisse des petits cailloux. Et si les enquêteurs sont assez intelligents, aussi intelligents que lui, ils vont trouver les petits cailloux. Donc il laisse un premier petit caillou en 2004. Il est entendu sur deux meurtres, Manania Tumpong, Célice Naison. Il dit, c'est pas moi non plus. Estelle Mouzin, personne ne lui demande rien. Mais en 2004, déjà, il parle d'Estelle Mouzin.
Lui-même,
tout seul, sans qu'on lui demande rien. Et Corinne Hermann, qui voit cette audition, se dit, s'il dit que c'est pas lui, ça veut dire que c'est lui. Et à partir de là, elle commence à se forger une conviction. Et personne ne l'entendra jamais pendant 15 ans. La deuxième fois qu'il en parle, il écrit à la justice. Il va être jugé à Charleville-Mézières. Il dit, je veux être jugé. C'est pas moi, mais je voudrais être jugé aussi pour le meurtre de deux victimes, plus Estelle Mouzin. Donc, il en reparle. Tout seul, sans qu'on lui demande rien.
Donc là, il a toute sa mémoire.
Il a encore une bonne partie de sa mémoire aujourd'hui.
Vous nous le préciserez.
2015, il est entendu par la juge Sabine Kéris, la juge d'aujourd'hui, 8e juge d'instruction du dossier, soit dit en passant, qui lui demande, vous avez donné ces trois noms, pourquoi ces trois noms ? Et il lui dit, si ces jeunes filles n'avaient pas croisé ma route, elles seraient peut-être vivantes aujourd'hui. Quelques temps plus tard, sur une autre audition, il va dire « Estelle Mouzin, il y a peut-être là quelque chose à creuser. C'est sinistre, c'est pitoyable. » Mais à chaque fois, il joue et il ne cesse de parler d'Estelle Mouzin, dont on se rend compte finalement que c'est un cas qu'il a étudié, pour lequel il s'est construit un alibi solide, extrêmement solide et pour lequel il a encore semé des petits cailloux.
Il a semé des petits cailloux. Alors ça, c'est absolument fascinant. C'est que on a le sentiment, et c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de tueurs psychopathes, c'est qu'il est enfermé dans un monde de signes, Fourniret, d'allusions. C'est presque un langage ésotérique.
Je vais vous donner un petit exemple. La maison de Ville-sur-Lume, sur laquelle j'ai travaillé moi depuis 2 ans, je suis arrivée à cette maison qui est la maison où était séquestrée Estelle Mouzin grâce à Michel Fourniret. Parce que je suis allée dans le dossier belge, le dossier français, et j'ai relu les premiers tomes du dossier, j'ai tout relu. Et je cherchais quelque chose qui pouvait ramener à cette période du 9 janvier 2003. Un ticket de caisse, n'importe quoi, un chèque, je ne sais quoi. Et je tombe sur un fax que Fourniret envoie à son frère. Estelle est enlevée le 9 janvier à 18h. Le 12 janvier, 2 jours et demi plus tard, à 10h30, il envoie un fax à son frère en disant « Sommes de retour de l'étranger ». Sommes passés à Ville-sur-Lume, bravo pour la dératisation, bonne année Michel. On sait qu'il a séquestré la petite à cet endroit, on ne sait pas combien de temps, mais donc on est dans la période, on est 2 jours et demi après. Il envoie un mail à son frère, un fax à son frère, en lui disant Ville-sur-Lume. Moi je suis persuadée qu'il a laissé un indice, et que c'est... Et il s'est dit, si je me fais arrêter, quelqu'un trouvera peut-être l'indice. Mais en faisant ça, il donne une indication.
Donc, comme disait,
c'est quand même fascinant.
Bien sûr, c'est absolument fascinant et captivant et presque hypnotique. Mais comme le disait Maître Seban, il faut qu'il ait la main sur le dossier pour coopérer, fournir, pour qu'il puisse parler.
Oui, pour qu'il puisse parler.
C'est lui le patron, quoi, en quelque sorte.
Voilà. De la même façon que pendant son procès à Charleville-Mézières, il se prenait pour le président. C'est lui qui voulait diriger l'audience. C'est lui qui veut diriger l'enquête. La juge, qui a compris sa psychologie, sa personnalité, le laisse dire, c'est bien Madame la juge, il lui délivre des bons points, comme s'il était le maître et si elle était l'élève. Là, quand il est dans cette position-là et qu'il a l'impression de diriger l'appel quand on fait des fouilles ou la juge d'instruction quand on essaie de le faire parler, quand il a l'impression que c'est lui qui est le maître du jeu, et bien là, peut-être, il daigne avancer.
L'affaire Estelle Mouzin, qui arrive à l'épilogue, approche donc du dénouement, mais n'est pas arrivée à son point final. Toutes les recherches, les fouilles entreprises se sont, on l'a dit, soldées par des échecs. Et l'apaisement pour la famille d'Estelle, notamment pour son père, Éric Mouzin, qui n'a jamais cessé de se battre pour que la vérité surgisse, l'apaisement ne viendra, on le sait, qu'avec la découverte du corps enterré quelque part, sans doute, dans la terre des Ardennes.
L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
L'heure du crime consacrée ce soir à Michel Fourniret, à ses derniers rebondissements dans l'affaire Estelle Mouzin, les déclarations de son ex-épouse Monique Olivier, une trace ADN, tout confirme que le tueur en série a bien enlevé, séquestré, violé et tué la petite fille. 17 ans. Que Éric Mouzin, le père d'Estelle, court après une vérité qui aujourd'hui se précise. Un père qui s'est battu longtemps contre des moulins, qui a tout fait pour que le nom de sa fille ne tombe pas dans l'oubli, et a été parmi les premiers à insister sur le cas Fourniret. Dès 2013, il avait déjà la conviction que Michel Fourniret était bien le prédateur qui se cachait derrière l'enlèvement de sa fille.
Nous allons demander prochainement avec Didier Seban et Corinne Herman la vérification d'un certain nombre de points sur la partie Fourniret du dossier pour que, une fois pour toutes, on ait le maximum de réponses permettant de décider si Fourniret doit être gardé dans le dossier ou totalement écarté. Moi, je considère aujourd'hui que cet aspect du dossier reste à traiter, même si certains enquêteurs considèrent que tout a été fait et que Michel Fourniret n'est pas dans le dossier. Mais je crois qu'il faut faire une vérification systématique et approfondie pour en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes.
Pas beaucoup d'écho à cet appel prémonitoire que Éric Mouzin ne va cesser de marteler, soutenu en cela par ses avocats Didier Seban, Corinne Herman. Si le scénario de la mort d'Estelle ne fait plus de doute et livre ses contours, l'interrogation principale d'Éric Mouzin reste sans réponse. Où est enterré le corps de sa fille? Où repose-t-elle? La maison de Ville-sur-Lume n'a jamais révélé de sépulture. Elle a pourtant été fouillée de fond en comble. La juge Kerry avait mobilisé des moyens exceptionnels pour ce chantier. La section de recherche de la gendarmerie de Dijon avait ainsi mis sur pied un dispositif spécial pour tenter de percer la cave de la maison. Fourniret avait affirmé qu'il avait coulé ici une dalle de béton. Vrai ou faux, il fallait vérifier. Un géoradar, une machine capable de détecter des irrégularités dans le sol jusqu'à 1,50 m de profondeur, avait été utilisé. Tout comme un drone équipé d'une caméra hyperspectrale permettant d'étudier la végétation, des plongeurs. Et même un archéologue n'avait pas pu déceler le moindre indice pouvant mener au corps d'Estelle Mouzin. Michel Fine, on s'en souvient, au château de Sautoux, toujours dans les Ardennes, une autre résidence de Fourniret. C'est lui, et lui seul, qui avait désigné l'endroit où allaient être retrouvés les corps de deux de ses victimes, la petite Elisabeth Brichet et Desmarot.
Marie-Jeanne Desrameaux.
Voilà, exactement, Marie-Jeanne, j'avais oublié son prénom. Peut-il, Michel Fourniret, avoir encore à nouveau une révélation, comme ça, un flash qui pourrait surgir et désigner un endroit?
C'est difficile de se prononcer sur ce qu'il peut faire. On ne sait jamais ce que va faire Fourniret à l'avance, mais on peut voir comment il a réagi. Effectivement, pendant les fouilles au château du Sautoux, Michel Fourniret laisse les enquêteurs chercher, désigne vaguement deux endroits et les laisse s'enferrer. Et ça dure des heures et ça dure des heures. Et il y a cette excavatrice, là, cette pelle qui fouille et qui ne trouve rien. Et puis au bout de plusieurs heures, il finit par dire mais creusez un peu plus à 1,50 m. Et à 1,50 m, alors que tout le monde est très fatigué et n'y croit plus, et ben on trouve les corps.
On trouve les corps.
Donc, mais il se comporte, il donne des ordres au monsieur qui dirige l'appel. C'est lui qui donne les ordres. Ouais. C'est parce qu'on le laisse faire et que c'est lui qui dirige les opérations qu'il va permettre de trouver le corps des deux victimes. Quelques années plus tard, en 2006, deux ans plus tard, en 2006, quand on va chercher le corps d'Isabelle Laville, qui est historiquement sa première victime, il va balader les enquêteurs dans tout le département. Il va s'enfermer dans son camion en disant « Je ne sors pas tant que le père d'Isabelle Laville ne vient pas me parler ». Il va mettre au supplice ce pauvre papa d'Isabelle Laville en lui faisant vivre des moments épouvantables. Il va se jouer de tout le monde et finalement, il ne donnera aucune indication. Et ce n'est que par un appel à témoins que le lieu sera retrouvé parce qu'un maire du coin va donner un indice. Donc, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il va essayer de jouer avec Éric Mouzin.
De jouer avec Éric Mouzin. C'est depuis le début, d'ailleurs, il cherche à le rencontrer.
Il cherche, et Éric Mouzin, qui est beaucoup plus intelligent et qui est quand même quelqu'un de psychologiquement très fort, ne se laisse pas faire.
N'a jamais cédé à ce qu'il appelle d'ailleurs...
Il ne veut même plus prononcer le nom de Fourniret.
C'est ça.
Il ne le désigne que par son matricule, désormais.
Et le désigne comme un maître chanteur sordide et sinistre. Est-ce que, d'après vous, l'état psychologique de Fourniret permet l'espoir d'une audition normale? On a beaucoup dit qu'il perdait la mémoire, qu'il ne savait plus très bien ce qu'il disait.
Alors, d'après ce que je sais, au dernier procès, les experts ont dit qu'il commençait à avoir une maladie neurologique. D'après ce que je sais aussi, les dernières personnes qui l'ont vu en dehors de la juge et qui sont les avocats d'Éric Mouzin, donc Didier Seban et Corinne Hermann, l'ont vu à l'automne dernier lors de la dernière reconstitution à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Eux, ils vous disent, il va très bien.
Oui.
Parfois, il a des petites absences, mais il connecte, il plaisante, et c'est horrible. Il réagit, tout va très bien. Est-ce qu'il est fatigué depuis? Est-ce qu'il s'est un peu fatigué? Je crois que la période du Covid a été compliquée en prison, hein, peut-être même pour lui, mais il n'a pas une maladie d'Alzheimer, il a encore de la mémoire, Fourniret.
Encore une question, Michel Fine. Une fois que le corps d'Estelle, et souhaitons-le, sera retrouvé, le dossier Fourniret pourra être, en tout cas celui-là, refermé, sans doute. Il reste d'autres questions, d'autres cas. Ce n'est pas le dernier secret, comme disait Didier Seban de Michel Fourniret.
Ce n'est évidemment pas le dernier secret, parce qu'il faut savoir que Michel Fourniret était quelqu'un qui n'avait pas besoin de travailler. Il ne travaillait pas pendant la plupart de sa période criminelle. Il partait avec son camion, il avait de l'argent, il avait volé le trésor du gang des Postiches, donc il avait de l'argent, il payait en liquide, et il partait des journées entières avec son camion. Il pouvait traverser la France, il pouvait aller en Italie, il pouvait aller en Espagne, il pouvait aller n'importe où. Et il avait l'habitude de tuer dans un endroit, de traverser la frontière et de déposer le corps dans un autre endroit pour brouiller les pistes. Il y a à Charleville-Mézières une pièce avec un millier de scellés de l'affaire Fourniret. Une grosse partie de ces scellés ont été repris aujourd'hui par la juge d'instruction qui a demandé qu'on refasse des analyses ADN. Peut-être ces analyses ADN vont parler. Probablement qu'elles vont parler. Elles ont parlé pour Estelle Mouzin, elles ont parlé pour la petite Lydie Loger, qui est une des dernières victimes qu'on a retrouvées de Michel Fourniret. Elles parleront peut-être pour d'autres. D'abord parce qu'il y a des endroits où on n'avait pas cherché de traces ADN, et puis parce que les techniques ont évolué. Donc je pense qu'on peut avoir beaucoup d'espoir et qu'il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de victimes de Michel Fourniret qu'on ne l'imagine.
Il y a d'autres dossiers qui pourraient lui être imputés
dans
les mois ou peut-être les années à venir.
C'est probable, c'est logique.
En tout cas, je pense que la juge Kéris se chargera de regarder si tout cela est vrai. Et il faut quand même lui tirer le chapeau ce soir à cette magistrate qui a fait un travail incroyable.
La huitième juge. Huitième juge, la première qui s'est vraiment intéressée au dossier, qui s'est fait briefer, qui a pris le temps de connaître, d'examiner, de comprendre la psychologie de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Il n'y a qu'en comprenant la psychologie de ces deux êtres qui sont pas des êtres normaux, bien évidemment, qu'on peut arriver à faire avancer le dossier.
Et à mettre les pièces du puzzle ensemble. 17 ans après, le temps qui s'accélère donc pour que Fourniret livre à sa façon ses derniers secrets, et pas son dernier secret, avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Merci Michel Fine d'avoir été notre invité dans le studio de l'heure du crime. Un grand merci à maître Didier Seban d'avoir été en ligne sur RTL dans cette émission. Didier Seban, avocat avec Corinne Herman, du père d'Estelle Mouzin. L'heure du crime, émission préparée par Justine Vignot et réalisée par Marc Bisset. Un grand merci à tous pour votre fidélité.